Dans les régions tempérées et tropicales où les hominidés sont devenus des êtres humains, l'alimentation de ces espèces était principalement d'origine végétale. Au paléolithique, au néolithique et à l'époque préhistorique, entre 65 et 80% de ce que mangeaient les êtres humains dans ces régions était cueilli. La viande ne constituait l'alimentation de base que dans l'extrême arctique. Les chasseurs de mammouths occupent certes de façon spectaculaire les grottes et les esprits, mais ce que nous devions réellement faire pour rester gras et vivants, c'était cueillir des graines, des racines, des bourgeons, des jeunes pousses, des feuilles, des noix, des baies, des fruits et des céréales, auxquels s'ajoutaient la collecte d'insectes et de mollusques, ainsi que le piégeage d'oiseaux, de poissons, de rongeurs, de lapins. Et nous n'avions même pas besoin d'y travailler dur. Beaucoup moins durement, en tout cas, que des paysans asservis dans le champ d'un autre depuis l'invention de l'agriculture, beaucoup moins que des travailleurs salariés depuis l'invention de la civilisation. Un humain préhistorique moyen pouvait vivre bien en travaillant environ 15 heures par semaine. 15 heures par semaine consacrées à la subsistance. Cela laisse beaucoup de temps pour d'autres choses. Tellement de temps qu'il est possible que quelques agités qui n'avaient pas un bébé dans les parages pour rendre leur vie plus vivante, ou pas de talent pour fabriquer, cuisiner, chanter, ou encore rien de très intéressant à quoi penser, ceux-là ont pu décider un jour de filer chasser des mammouths. Dès lors, les chasseurs habiles pouvaient rentrer en titubant sous un fardeau de viande, les bras pleins d'ivoire et avec une histoire. Mais ce n'est pas la viande qui faisait la différence, c'était l'histoire. Il est difficile de faire un récit vraiment captivant en racontant la manière dont j'ai arracher une graine d'avoine sauvage de son enveloppe, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et comment j'ai ensuite gratté mes piqûres d'insectes, et un tel a dit quelque chose de drôle, et nous sommes allés jusqu'au ruisseau pour boire, nous avons regardé les tritons pendant un moment, et puis j'ai trouvé un autre coin d'avoine. Non. Bah non, vraiment, ça ne tient pas la comparaison avec la manière dont j'ai plongé ma lance au plus profond du flanc titanesque et poilu, tandis que un tel empalé sur l'une des gigantesques défenses se tordait en hurlant, et le sang jaillissait partout en de pourpres torrents, et un tel a été transformé en gelée lorsque le mammouth lui est tombé dessus, alors que je tirais ma flèche infaillible à travers son œil pour pénétrer son cerveau. Cette histoire-là ne contient pas seulement de l'action, elle possède un héros. Et les héros sont puissants. Avant que vous ne vous en soyez rendu compte, les hommes et les femmes dans le coin d'avoine sauvage, leurs enfants, l'habileté des faiseurs, les pensées des pensifs et les chants des chanteurs ne sont plus que des éléments de la nouvelle histoire, appelée au service de la saga du héros. Mais cette histoire n'est pas leur histoire, c'est la sienne. Lorsqu'elle préparait le livre qui finira par devenir « Trois Guinées », Virginia Woolf écrivit une rubrique glossaire dans son carnet. Elle avait imaginé réinventer la langue anglaise avec une nouvelle visée, afin de raconter une histoire différente. Le héros, dans le dictionnaire de Woolf, devient une bouteille. Le héros comme bouteille. Voilà déjà une sévère réévaluation. Je propose à présent de considérer la bouteille comme un héros. Pas seulement la bouteille de gin ou de vin, mais la bouteille au sens ancien d'un contenant en général, d'une chose qui contient autre chose. Une feuille, une calebasse, une coquille, un filet, un sac, une écharpe, une hotte, un pot, une boîte, un contenant, un réceptacle, un récipient. Le premier équipement culturel a probablement été un récipient. De nombreux théoriciens ont le sentiment que les premières inventions culturelles furent forcément un contenant, destiné à recueillir des denrées collectées. Ainsi parle Elizabeth Fisher dans Woman's Creation.
Mais non, c'est pas possible. Où est donc passée cette chose merveilleuse, grosse, longue et dure?
Un os, je crois.
Avec laquelle l'homme singe du film frappait quelqu'un pour la première fois avant que, grognant d'extase à l'idée d'avoir commis le premier vrai meurtre, il ne l'envoie à travers le ciel où la chose tourbillonnait jusqu'à devenir un vaisseau spatial, enfonçant les portes du cosmos pour le féconder et concevoir ainsi, à la fin du film, un adorable fœtus, un garçon évidemment, dérivant à travers la Voie lactée.
Je n'en sais rien et je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas cette histoire que je raconte. Nous l'avons entendue, cette histoire. Nous avons tous entendu parler des bâtons, des lances et des épées, de tous ces instruments avec lesquels on frappe, on perce et on cogne, de ces choses longues et dures. En revanche, nous n'avons rien entendu sur la chose dans laquelle on met d'autres choses, sur le contenant et les choses qu'il contient. En voilà une nouvelle histoire. Tout cela est bien ancien pourtant. Avant l'outil qui canalise l'énergie vers l'extérieur, nous avons fabriqué l'outil qui ramène l'énergie à la maison. Cela fait sens pour moi. J'adhère ainsi à ce que Fisher a appelé la théorie du panier de l'évolution humaine. Cette théorie m'ancre personnellement dans la culture humaine comme jamais je ne l'avais senti auparavant. Je n'ai jamais pensé que j'avais ou même que je voulais une part de tout ça, tant que l'on expliquait l'origine et le développement de la culture à travers l'invention et l'usage d'objets longs et durs destinés à pénétrer, frapper et tuer. La société, la civilisation dont parlaient tous ces théoriciens, c'était évidemment la leur. Ils la possédaient et ils l'aimaient. Ils étaient humains, pleinement humains, pénétrants, frappants, enfonçants, tuants. Voulant être un être humain, moi aussi, j'ai cherché des preuves que je l'étais. Mais s'il fallait pour cela fabriquer une arme et m'en servir pour tuer, alors il devenait évident que j'étais particulièrement déficiente comme humain. Peut-être même pas un humain du tout.
C'est exact, dirent-ils. Voilà ce que tu es, une femme. Potentiellement pas un humain du tout, et certainement un humain déficient. Maintenant, tais-toi. Nous allons continuer à raconter l'histoire de l'ascension de l'homme héros.
Allez-y, dis-je, tandis que je m'aventurais à travers l'avoine sauvage. continuer à raconter comment le mammouth est tombé sur un tel, comment Cain est tombé sur Abel, comment la bombe est tombée sur Nagasaki, comment la gelée ardente est tombée sur les villageois, comment les missiles vont tomber sur l'empire du mal et toutes les autres étapes de l'ascension de l'homme. Si c'est faire quelque chose d'humain, que de mettre une chose que vous voulez dans un sac parce que cette chose est utile, comestible ou belle, et ensuite de ramener à la maison cette chose-là, dans une maison qui n'est qu'une autre sorte de grande poche ou de grand sac, un contenant pour les gens, et que plus tard vous ressortez cette chose pour la manger, la partager, et que le lendemain vous faites plus ou moins la même chose. Si faire cela est humain, si c'est cela qui l'en coûte, alors je suis un être humain après tout. C'est l'histoire qui fait la différence. C'est l'histoire qui me cachait mon humanité. L'histoire que racontaient les chasseurs de mammouths à propos de raclées, de viols, de meurtres, à propos du héros. L'histoire merveilleuse et empoisonné. L'histoire qui tue. Il semble parfois que cette histoire touche à sa fin. Nous sommes plusieurs à penser, depuis notre coin d'avoine sauvage, que, plutôt que de renoncer à raconter des histoires, nous ferions mieux de commencer à en raconter une autre. Une histoire que les gens pourront peut-être poursuivre lorsque l'ancienne se sera achevée. Peut-être. Le problème, c'est que nous avons tous laissé nos êtres devenir des éléments de l'histoire qui tue et que nous pourrions bien nous éteindre avec elle. C'est donc avec un certain sentiment d'urgence que je cherche la nature, le sujet et les mots de l'autre histoire. Celle qui jamais ne fut dite, l'histoire vivante. Ursula Le Guin, La théorie de la fiction panier, traduit par Aurélien Gabriel Cohen pour la revue Terrestre.